cet après-midi à l'émission, et ce sera le cas également à quelques occasions courant de la saison, on discute avec la députée fédérale de Pontiac, Sophie Châtel, qui est au bout du fil en ce lendemain d'énoncé économique. Bonjour.
Bonjour, Sébastien.
Il y a différents sujets sur lesquels vous travaillez, dont on va traiter au fil de ces rencontres-là dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais là, ben, celui-là s'imposait de lui-même, l'énoncé économique qui a été déposé hier, qui contient vraiment plusieurs mesures. Certains le qualifient de pas un remède miracle, mais il y a quand même plusieurs éléments là-dedans qui méritent d'être ressortis. Puis, ben, pour plusieurs, ben, pour une crise qui a grandi dans les dernières années. Il y a des mesures pour le logement, notamment, qui ont été annoncées hier.
Oui, c'est une continuité de la réponse du gouvernement à la crise du logement afin de permettre aux Canadiens de se loger de manière abordable. Donc, évidemment, au niveau du Québec, on discute de l'accord avec Québec d'investir 1,8 milliard de dollars dans des investissements qui vont permettre de créer plus de 23 000 nouveaux logements supplémentaires d'ici 2027-2028. Donc, encore une fois, des bonnes nouvelles pour les jeunes qui rêvent de devenir propriétaires aussi. On parle du compte du compte enregistré d'épargne logement. Donc, pour l'accès à une première propriété. Donc ça, c'est un bon moyen d'économiser, de prendre des déductions fiscales et de pouvoir économiser pour faire la mise de fonds là, sur une première l'achat d'une première maison.
Puis là, quand on parlait de logement là, juste avant, dans ce lot-là, est-ce qu'il y a des logements qui sont abordables? Parce qu'il y a plusieurs qui lèvent la main en disant « oui, oui, du logement, mais j'ai pas 1 800 $ à mettre par mois sur mon loyer ». Est-ce qu'il y a des options, il y a des incitatifs pour les logements abordables dans tout ça?
Bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on annonce des mesures pour la charte, une charte là, de l'hypothèque aussi, pour permettre aux gens qui ont peut-être des difficultés à leur hypothèque de s'assurer qu'ils vont continuer de payer, de pouvoir payer leur hypothèque. En termes de logement abordable, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que s'il y a une pénurie de logement, ça augmente évidemment la demande en termes de logement qui fait une pression à la hausse sur tous les loyers ou les propriétés. Mm-hmm. Donc, plus on offre de logements, de construction de nouveaux logements, ben la pression diminue et donc tous les loyers et l'achat le prix des maisons va diminuer. Donc, c'est vraiment l'offre et la demande sur laquelle on travaille. Donc, plus de logements, c'est évidemment la meilleure façon de réduire à la baisse la pression sur les loyers et sur le prix des maisons.
Puis j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi des énoncés économiques-là qui touchaient la location à court terme pour rendre disponibles des logements qui ont été convertis en location à court terme. Est-ce que j'ai bien saisi les éléments?
Oui, exactement. Dans les mois de l'automne, on annonce que le gouvernement fédéral à mettre en œuvre ce que les provinces ou certaines municipalités se sont dotées en termes de mesures pour empêcher la location à court terme de logements, de maisons, pour pouvoir que ces maisons-là, que ces logements-là puissent être offerts à la population pour la location à long terme. Donc, par exemple, si jamais il y a des municipalités qui se dotent de ça, mais que ces mesures-là ne sont pas respectées, ben le gouvernement fédéral va appuyer les municipalités ou les provinces en empêchant les déductions fiscales qui souvent sont prises lors de locations à court terme. Donc, toutes les dépenses pour offrir ce revenu de location-là vont être refusées. Donc, c'est un moyen de soutenir les municipalités et les provinces dans leur démarche pour empêcher des locations à court terme qui empêchent ces logements-là d'être offerts et disponibles aux populations.
Est-ce que à travers cet énoncé économique-là, parce qu'on le sait de façon générale, l'économie mondiale est pas à son meilleur, on va le dire. Là. On parle d'inflation beaucoup, on parle de différents éléments économiques. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles malgré tout, économiquement parlant?
Ben, il y a des très bonnes nouvelles. Une qui m'a frappée, Sébastien, c'est le fait que le Canada, en termes de dollars, là, est le troisième pays au monde où les gens veulent venir investir. Donc, ça démontre la rigueur de l'économie canadienne, les compétences en termes de formation des travailleurs, solidité de la démocratie aussi, tu sais, parce que quand les investisseurs étrangers veulent investir, ils veulent s'assurer d'une stabilité économique. Donc, on est juste après les États-Unis et le Brésil, on est avant la Chine, en termes de dollars réels, là. Donc, ça, c'était une très bonne nouvelle. Pour les consommateurs, ce qui est une bonne nouvelle, c'est que finalement, l'inflation est passée à 3,1 en octobre. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ce que ça veut dire, Sébastien, c'est que les taux d'intérêt qu'on a vu augmenter aussi, on s'attend, les économistes s'attendent à ce qu'ils commencent à baisser au milieu de l'année prochaine aussi. Donc, pour ceux qui devraient renégocier leur hypothèque, c'est des bonnes nouvelles. On va espérer qu'ils puissent bénéficier de ces réductions-là. Donc, des bonnes nouvelles au point de vue économique. Au niveau de la stabilité de la... On s'inquiète beaucoup là, de la dette, hein, surtout que pour le gouvernement, les taux d'intérêt augmentent aussi, donc le service de la dette augmente. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que le Canada a le plus petit déficit en proportion de son économie en termes des pays du G7, donc le plus petit déficit. Et ce qui est très important, c'est de regarder, moi je regarde toujours la dette par rapport au PIB. Parce que ce ratio-là, ça nous donne vraiment une idée de c'est quoi notre dette versus notre capacité de croître, de produire des revenus, donc notre produit intérieur brut. Mm-hmm. Et ça, on a le meilleur ratio de tous les pays du G7. Donc, encore une fois, le Canada reçoit une cote de crédit excellente, le triple A qu'on appelle, et ce qui est évidemment regardé par les investisseurs et ce qui démontre la solidité du plan économique du gouvernement. C'est sûr qu'on a un service de la dette qui augmente donc à cause des taux d'intérêt. Ça, c'est aussi noté dans l'énoncé économique.
Mais ça doit rester un casse-tête parce que ce l'est pour les contribuables. Ça doit l'être pour vous aussi de faire balancer tout ça parce que justement, vos taux d'intérêt augmentent puis vos dépenses de remboursement d'intérêt augmentent aussi. Ça ne doit pas être évident de réussir à créer des programmes, investir dans certaines affaires puis de devoir rembourser tout ça par la même occasion, là.
Oui, les dépenses ont été très, très, très ciblées au logement, entre autres. Donc, évidemment, c'est quelque chose d'important de faire preuve de prudence fiscale, qu'on appelle. C'est important parce que, oui, comme tout le monde, le gouvernement doit bien, bien, bien gérer ses finances en temps de crise inflationniste.
Puis certains semblent dire que peut-être on éviterait la récession au pays. Est-ce que cet énoncé-là nous donne cette impression-là? Est-ce que c'est les échos que vous avez lors de la préparation de l'énoncé économique?
Oui, exactement. Donc, on n'est pas sûr parce qu'on va attendre les données de la fin de 2023 puis du début de 2024 avant de pouvoir confirmer le tout. Mais les économistes, finalement, prédisent que ça serait plutôt, comme ils disent en anglais, un soft landing. Donc, vraiment, donc, un atterrissage en douceur de l'économie canadienne.
Et malgré tout, comme tout exercice politique, cet exercice-là d'hier vient avec des critiques. Là, les partis d'opposition qui ont qualifié cet énoncé-là de dégoûtant et de déconnecté. Quels sont vos commentaires, Sophie Chatel, sur les remarques des partis d'opposition hier à la suite du dépôt?
Bien, c'est sûr que les conservateurs trouvent qu'on dépense trop, mais c'est encore une fois, ils n'ont pas les vrais chiffres pour le justifier. Mais l'investissement en logement est inévitable. Il faut faire ça pour les Canadiens. Donc, ça, c'est très important. Bon, et d'autre part, le Parti, le Bloc québécois et le Parti des Nouveaux démocrates lui, il se plaint qu'on ne dépense pas assez. Donc, je pense qu'on est vraiment dans le milieu, puis on fait attention, on priorise énormément les dépenses dans ce qu'il y a d'essentiel, qui est de la crise du logement et les dépenses en santé, évidemment. Mais pour le reste, on fait bien attention. Alors oui, on est vraiment centré sur l'économie et on le gère d'une manière prudente qui est vraiment au centre des partis d'opposition finalement.
Et on disait la mesure ciblée, là, on ne passera pas à travers tous les énoncés économiques. Je pense que ça a 160 quelques pages, ce document-là. Mais quand on parle de mesures ciblées, on dit même très ciblées. Là, on parle d'un retrait de TPS sur des services de psychothérapie. On parle de mesures également pour les gens qui adoptent. Il y a différentes mesures comme ça. Là. Je ne vais pas dire petites mesures parce qu'elles sont importantes pour les gens qui y touchent, mais qui ne coûtent pas des milliards chacune puis qui permettent de changer la vie de certaines personnes.
Oui, oui, effectivement. C'est pas des postes de dépenses énormes, mais il y a des mesures qui sont ciblées. Comme je parlais de la santé tout à l'heure, oui, c'est une mesure importante, celle-ci, parce qu'on parle beaucoup de santé mentale, c'est important. Mm-hmm. Alors, et des mesures très ciblées, par exemple, on investit aussi dans la biomasse. On a un crédit d'impôt pour la transformation de produits forestiers en biomasse, qui est un sujet qui est important pour la vallée de la Gatineau, par exemple. Donc, des mesures très ciblées, plus fiscales. On va plus dans des crédits d'impôt. Il y a un crédit d'impôt pour les journalismes, aussi, mais très, très ciblé. Puis on utilise beaucoup les leviers fiscaux plutôt que de donner des subventions, par exemple. C'est l'approche qui est prise dans l'énoncé économique de l'automne.
Bon, bien, si l'envie a dit à nos auditeurs et auditrices, bien, comme je disais, c'est 160 quelques pages de lecture de chevet à faire. Sinon, bien, Sophie Châtel, un grand merci pour ce temps aujourd'hui. Puis, bien, comme je disais, on va se reparler régulièrement au fil des prochaines semaines, des prochains mois. Là, c'était peut-être pour certains là, plus austère, hein, un énoncé économique. C'est du sérieux, c'est des chiffres, c'est tout ça. Mais on parlera des dossiers sur lesquels vous travaillez, sur les comités sur lesquels vous siégez, puis, bien, d'informations pertinentes là, pour le quotidien des gens de la vallée.
Ça va être parfait.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie Châtel. Au revoir.
Merci, Sébastien. Au revoir.